Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Notre nouvelle série s'intitule « Les pourquoi de la foi ». Je veux remercier l'équipe qui a préparé ce clip. Est-ce qu'on peut les remercier ensemble? On veut vous souhaiter la bienvenue à vous ici à Nouvelle Vie, mais aussi maintenant, on a des comptes assez précis de tous ceux qui écoutent et les messages, téléchargent les messages par le site Internet, mais aussi par les différents sites Internet et différentes émissions de radio. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue à vous ici et aux dizaines de milliers qui les écoutent. Et nous allons entrer dans cette nouvelle série qui s'intitule « Les pourquoi de la foi ». On espère que le clip vous a fait sourire, mais c'est quelque chose d'infiniment sérieux et important. Et on a voulu illustrer comment ces pourquoi-là nous rejoignent dans notre quotidien, quelqu'un qui marche dans la rue, dans tous les aspects de notre vie. Et nous allons, je rappelle à tous ceux qui sont avec nous pour les premières fois ou qui écoutent ces messages pour les premières fois, que les messages vont à la série entière, va être gratuitement sur notre site Internet, mais aussi tout ce qui apparaît sur les écrans, tout le PowerPoint, les notes sont aussi téléchargeables et disponibles pour vous. Et lorsque nous regardons à cette question, à cette vision des pourquoi de la foi, nous avons comme texte fondateur un passage magnifique dans 1 Pierre chapitre 3, où l'apôtre Pierre dit ces mots: « N'ayez d'eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » Il y a un appel ici à sanctifier. Le mot dans sa racine grecque parle de séparer, parle de purifier ou de séparer. Et nous comprenons bien que ce n'est pas Christ qui a besoin d'être sanctifié, mais c'est nos cœurs qui ont besoin de l'être. Et c'est littéralement un appel de Dieu qui appelle chaque chrétien qui dise « J'ai Jésus dans mon cœur, mais que cohabitant avec le Seigneur, il y a des pensées, des cœurs, des pensées, des actions, des motifs, des chaînes, des choses du péché qui sont là. Et Christ cohabitant avec ce qui est parfois total sur des années, totalement contraire à lui. Alors il y a cet appel à une foi vraie, à une foi qui est pure, à une foi qui est véritable, à sanctifier Christ dans nos cœurs, sanctifier Christ le Seigneur, et aussi non seulement en nous, mais face aux gens qui nous entourent, face au monde dans lequel nous évoluons, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande, et voici notre thème, devant quiconque vous demande le pourquoi, quiconque vous demande le pourquoi, les pourquoi de votre foi, les pourquoi de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que même là où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui vous attaquent soient dans la confusion à cause de votre bonne conduite. La vision de Dieu à travers l'apôtre Pierre et la vision pour nous en cette série de messages de fin d'année, l'apôtre Pierre, le Seigneur appelle, et sa vision et son désir et ce qui est capable et désireux d'accomplir en nous, c'est celle pour chacun d'entre nous d'un peuple de Dieu, de croyants qui sont tellement bien enracinés dans ce qu'ils croient, qui sont capables de non seulement le communiquer verbalement, sont capables de répondre aux questionnements, et le texte est très transparent et direct. On va regarder au contexte et voir à quel point il est semblable au nôtre. Mais on parle ici à des chrétiens qui étaient dans un contexte qui était hostile. Et on parle à chacun d'entre nous, et il dit, la vision de Dieu, c'est des croyants qui sont capables d'expliquer à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui sont, vous connaissez tous des gens dans votre entourage, qui sont contre Dieu sans le connaître. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Contre l'Évangile, alors qu'il ne peut même pas vous en dire deux lignes. Il y a quelque chose entre eux, souvent, qui est méprisant, qui est moqueur, que ce soit des médias aux humoristes, à certaines colonnes dans les journaux, Journal de Montréal et autres. À chaque semaine, il y a des pensées totalement opposantes. Et l'apôtre Pierre parle à un peuple qui était dans un monde comme ça, mais il dit, il y a une grâce, il y a une puissance, il y a une espérance qui est en vous, qui est plus grand que ce qui est contre vous, et je veux vous amener à une place où chaque croyant est capable d'expliquer, de répondre, et non seulement de répondre verbalement avec ses communications, mais de répondre par ta conduite, que ta vie devient quelque chose, un message, un épître lu par tous les hommes, et que tu deviens qu'il y a des choses dans ta vie qui sont telles que même ceux qui voudraient te niaiser, même ceux qui voudraient t'abaisser, même ceux qui voudraient se moquer de toi sont un peu dans la confusion parce qu'il y a quelque chose en toi, il y a une paix en toi qu'ils désirent, il y a une force en toi, il y a une grâce en toi, et tu es capable de répondre pour l'espérance de la foi qui est en toi. Quelqu'un devrait dire oui. cette dimension de personnes qui brillent parce qu'ils sont enracinés et sont capables de répondre à l'espérance qui est en eux. Je vais être à New York dans quelques jours. J'ai plusieurs fois dans l'année prêché à l'église Times Square Church et je vais être là encore ce mardi. Je vais être de retour dimanche prochain, bien sûr. Puis la dernière fois que j'étais là-bas, j'étais tellement touché d'entendre le témoignage de cette dame qui chante dans la chorale de l'église Times Square Church et toute discrète avec toute la grande chorale. Elle est là et elle est sortie de la chorale parce qu'elle a donné, les pasteurs on lui a demandé de donner ce témoignage. Et c'était tellement touchant. C'est une femme qui travaille dans un immeuble à Manhattan, en plein quartier Wall Street, dans un endroit... Une firme d'investissement et c'est une grosse boîte et elle est une personne sur un étage qui travaille parmi 1900 employés. Il y a 1900 employés juste dans ce bâtiment-là et elle travaille dans la comptabilité, dans la tenue de livres. Mais à chaque année, cette compagnie-là fait une présentation et ils font une nomination, il y a tout un processus et à chaque année, dans un grand banquet, ils annoncent qui est l'employé de l'année. Et cette dame-là, Sandra, est devenue l'employée, elle a été nommée l'employée de l'année. C'est une femme chrétienne qui a vécu plein d'épreuves dans sa vie, mais qui a une grâce sur elle et une paix, et qui est capable de communiquer sa foi d'une manière extraordinaire et devant non seulement les 1900 employés, mais avec ce banquet annuel où les familles viennent, les conjoints et conjointes. Il y avait plus de 3000 personnes qui étaient là, et le président de la compagnie a dit ces mots, et elle s'est enregistrée, puis il y a un texte, une traduction, je vous lis mot à mot ce que le président a dit. Le président de cette grosse compagnie a dit d'elle, le président a dit d'elle, cette femme représente l'intégrité, la joie, le professionnalisme, la bonne humeur et l'attitude exemplaire dont tout patron rêve. Dites à la personne près de vous, est-ce que ton boss peut dire ça de toi? Dites ça à la personne près de vous, ça va, juste au cas. Devant les milliers qui étaient là, il a dit, Madame, vous représentez, vous enrichissez notre entreprise par vos qualités et votre personnalité. Vous êtes aimé de tous et vous êtes comme une sœur et une mère pour plusieurs. C'est une dame qui a tout un cœur de compassion pour les gens et a gagné le cœur des gens autour d'elle. Et le président de la compagnie a dit ceci, très honnête. Il a dit, je suis personnellement un homme qui avait été cynique et moqueur face à l'Église ou la religion, mais vous m'avez donné soif de prendre un deuxième coup d'œil, to take a second look. Il a dit, vous représentez ce qu'il y a de plus beau et de plus noble dans la nature humaine, et si c'est votre foi qui rend cela possible, je veux en savoir plus. Et alors qu'il a terminé ça, il a dit, à chaque année, lorsqu'on a l'employé de l'année, nous lui donnons le micro et nous lui demandons de nous expliquer les secrets de qui elle est et de ce qu'elle vit. Alors j'aimerais maintenant donner le micro, puis le patron a dit devant tout le monde, je sais qu'il y a des gens qui disent, oh, c'est dangereux de donner le micro à Sandra, elle va nous prêcher ça, mais j'aimerais donner le micro à Sandra. Et pendant 10 minutes, elle a pris le micro et pendant 10 minutes, elle a expliqué sa foi, communiqué sa foi au milieu, qui était une petite dame qui travaille au compte à recevoir, qui travaille en tenue de livre. Et elle a communiqué sa foi et à la fin, les 3000 qui étaient là se sont levés et lui ont donné un standing ovation. J'aimerais déclarer que Dieu est capable de nous rendre des hommes et des femmes qui, eux, savent répondre au pourquoi de l'espérance qui est en nous. Et celui qui est en nous brille et est plus grand que celui qui est dans le monde. Et une fois, fait de nous des témoignages vivants. Quelqu'un devrait dire amen. Lorsque nous regardons au contexte des pourquoi de la foi, l'apôtre Pierre a dit, il faut que le Seigneur vous amène à un endroit où vous êtes capable de rendre compte, de répondre au pourquoi de l'espérance qui est en vous dans un monde hostile. C'est fascinant le contexte de 1er et de 2e Pierre. Comment c'est similaire avec ce que nous vivons. C'est comme un miroir de notre monde moderne. Cette lettre a été écrite à un moment, le Saint-Esprit a inspiré ces lettres à un moment très particulier. À un moment où les chrétiens étaient sous la persécution, suivant la destruction de Rome par le feu, sous le règne de l'empereur Néron. Et Néron avait, l'histoire nous raconte comment ce despote fou avait mis littéralement à feu et à sang la ville et les milliers de chrétiens qui étaient là, qui ont payé le prix aussi. Et il y avait toutes sortes de complots, des livres d'histoire comme ça, sur tout ça, sur les différents complots, pourquoi il l'a fait, et c'était complot politique et tout le reste, et comment dans sa folie des grandeurs, certains disent même qu'il voulait la brûler afin de pouvoir rebâtir, tellement qu'il était assoiffé simplement de grandeur et d'accomplissement. Mais alors que la pression est devenue de plus en plus sur lui, Néron a fait ce que beaucoup d'autres ont fait. Il y avait une présence chrétienne qui était là à Rome et s'est mis à travers des édits, à l'époque s'est mis à mettre toutes sortes de soupçons et de blâmes sur les chrétiens. À les blâmer pour tout ce qui se passait dans le monde, tout ce qui allait mal dans leur monde, absolument sans fondement. Et les chrétiens ont commencé à subir une persécution horrible. Ils étaient moqués, ils étaient méprisés. Il y a un historien qui dit, les Romains, à l'époque, étaient ouverts. Ils étaient ouverts à 1000 dieux et philosophies romaines, mais complètement fermés à Christ. Et on connaît cette pensée de gens qui seraient ouverts à peu près à n'importe quoi. Et on vit dans ce monde de buffets et de salades et de salmigondis religieux philosophiques où les gens sont prêts à parler de n'importe quoi, ouverts à tout, tellement tolérants et ouverts. Mais lorsque tu parles du Seigneur Jésus-Christ, il y a quelque chose en nous, il y a une dureté qui est là. C'était le contexte des croyants à laquelle ces épîtres étaient adressées. C'était aussi un contexte où le peuple est secoué par la souffrance, les souillures et le tourbillon de la société qui les entoure. C'est pour ça qu'il leur dit, n'ayez pas peur, soyez sans crainte, prenez courage. Parce qu'il y avait, Rome avait brûlé. Il y avait des milliers de chrétiens qui étaient là, qui avaient tout perdu. C'était un moment de famine, un moment de peur, un moment de récession. C'était un moment où des gens disaient, tout ce que j'ai bâti depuis des années vient de disparaître en fumée. C'était des gens qui avaient peur et qui étaient tellement préoccupés par tout ce qui se passait autour d'eux que c'est bien facile de négliger sa foi, sa marche avec Dieu, d'en venir à perdre la beauté et l'ampleur et la préciosité de ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. C'est pas très, très loin de nous. Cette semaine du 18 octobre 2009, je vous promets que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, si le Seigneur sa venue dans 100 ans, les livres d'histoire vont se souvenir de cette semaine. Parce que cette semaine, dans l'histoire de l'humanité, aussi loin qu'on peut reculer, où on a une certaine nomenclature et comptabilité de ces terribles choses-là, il y a un triste record cette semaine qui est dans les journaux partout à travers le monde. Et la presse, elle a dit de cette façon, une personne sur six souffre de la faim. Haïti est l'un des pays les plus touchés par la crise alimentaire mondiale et l'humanité vient de battre un bien triste record. Jamais autant d'êtres humains n'ont souffert de la faim dans le monde. Selon un nouveau rapport des Nations Unies publié hier, un peu plus d'un milliard de personnes sont sous-alimentées sur la planète. Et vous mettez cela avec un fond, une toile de fond de risque et de peur et de terreur, d'épidémie et de panique d'épidémie à travers le virus H1N1. Et ici à l'Église, dans les prochaines semaines, on va vous communiquer, on a déjà commencé beaucoup de choses, le bulletin chaque semaine, mais on a tout un plan pour répondre et qu'est-ce qu'on va faire et toutes les mesures sanitaires que nous prenons, toutes les mesures que nous prenons pour cela. Mais il y a ce fond d'inquiétude qui faisait que les chrétiens qui ont entendu ce message était tellement important parce que c'était des chrétiens qui devenaient de plus en plus secoués. Distraits, secoués par tout ce qui se passait autour d'eux. Des nouveaux chrétiens qui étaient facilement déracinables. Avaient fait quelques pas vers Dieu, mais là, il y a tellement d'affaires qui se passent dans ma vie, ils étaient facilement déracinables. Et l'apôtre Pierre, lorsque vous lisez les épîtres de Pierre sur cette période-là, en particulier, lorsque Pierre écrit, il adressait aussi des chrétiens de longue date. Des chrétiens de longue date qui s'étaient relâchés et qui étaient en train de perdre le précieux de ce qu'ils avaient, qui faisaient des choses sans même comprendre pourquoi ils les faisaient, qui louaient, qui venaient à l'Église, qui étaient là dans l'Église, mais qui n'étaient plus capables ou pas capables de répondre à la raison de l'espoir qui est en eux. Ils le font, et des chrétiens que s'ils avaient ouvert, levé le voile de leur cœur, vous auriez dit que manque quelque chose à ma vie chrétienne. Ma vie chrétienne n'est pas ce qu'elle a déjà été. Ou ma vie chrétienne n'est pas. Il y a quelque chose qui manque. Il y avait un languissement dans leurs esprits. Ils avaient perdu l'importance et le contexte des pourquoi de la foi. Les pressions, le contexte des pourquoi de la foi, la diapo 7, c'était les pressions de leur vie essoufflante, propice à une expérience chrétienne superficielle, sans racines ni profondeur, authenticité, efficacité, impact ou puissance, et c'était aussi une pauvreté spirituelle. Le deuxième épître de Pierre, il va adresser même toutes les fausses doctrines dans lesquelles ils étaient bombardés. Et on vit dans un monde comme ça, où il y a tout un mélange écuménique de tous les côtés, où vous pouvez avoir le président Obama qui, une journée, si tu lis un texte, semble être chrétien, le lendemain, on dirait qu'il est un chrétien musulman, chrétien, et vous pouvez écouter Oprah Winfrey, et à toutes les semaines, elle a un mélange qui est là, une espèce de salade, un buffet qui est là de toutes sortes de pensées, et t'as des chrétiens qui sont assis au milieu de tout ça et qui n'ont pas, que sinon pas les racines, sinon pas la connaissance, sinon pas leurs propres ancres et leurs propres fondations sont secouées de tous les côtés. Alors il y a une pauvreté spirituelle où les chrétiens ne savent même plus le pourquoi de leur foi et ont oublié la responsabilité de communiquer leur foi clairement en parole et en conduite, de donner la raison, le pourquoi de l'espoir qui est en eux, de la foi qui est en eux. Alors, notre vision pour ces 5 prochains messages qui vont nous amener jusqu'au mois de décembre, une série de messages d'évangélisation de Noël, une série Vivre Noël pendant le mois de, les 3 ou 4 dimanches de décembre, dans le mois d'octobre et novembre, les pourquoi de la foi, notre vision est simple, acquérir, apprendre, approfondir afin d'accomplir. Nous voulons que chaque croyant puisse acquérir des fondations, comprendre et apprendre et s'approfondir avec des racines en Dieu afin que chacun puisse accomplir l'appel. Et nous allons regarder à plusieurs pourquoi de la foi et notre modèle va être les Actes des Apôtres. Alors, je vous encourage à lire les Actes des Apôtres pendant le mois d'octobre et novembre, à traverser les chapitres parce que nous, on va aller de chapitre en chapitre dans les Actes, on va regarder à différents endroits et répondre à plusieurs pourquoi de la foi. Pourquoi la prière? Pourquoi la communion fraternelle, pourquoi aller à l'Église, pourquoi les valeurs chrétiennes comme pardon, générosité, pourquoi la Sainte Cène, des milliers de croyants qui l'apprennent presque machinalement sans même comprendre toute sa beauté, pourquoi le baptême d'eau, pourquoi la louange, pourquoi l'adoration, et cette semaine, et dans un message en deux parties, dans le prochain message, nous allons regarder ensemble aux Actes des Apôtres, le premier chapitre, tout le monde, prenez dans vos Bibles, s'il vous plaît, tout le monde qui a une Bible, laissez-moi voir que vous avez votre Bible ce matin, vous n'êtes pas venu nu à l'église, vous avez votre Bible, ceux qui n'ont pas de Bible, alors que les musiciens vont jouer tel que je suis, sans rien à moi, approchez-vous avec repentance. Achetez-vous une Bible, c'est le meilleur investissement dans votre vie, même si les textes apparaissent à l'écran. Et si vous avez une Bible, amenez-la à l'église. On veut que vous puissiez lire la Bible pour vous-même. Et ce matin, nous allons commencer à répondre ce matin dans le prochain message. Pourquoi la puissance du Saint-Esprit? Pourquoi la puissance du Saint-Esprit? Actes des Apôtres et des portions dans le chapitre 1, où nous lisons Actes 1 et le verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Le verset 8, « Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et le verset 12, « Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, c'était Jean, c'était Jacques, c'était André, c'était Philippe, c'était Thomas, c'était Matthieu, c'était Jacques, c'était Simon, c'était Claude, c'était Christine, c'était Stéphane, c'était Suzanne, c'était vous, Normand, c'était Normand, c'était vous, c'était toi, c'était moi. Il n'y a jamais de foule devant Dieu. Seulement des personnes que Dieu connaît parfaitement, des personnes que Dieu connaît intimement, des personnes dont Dieu connaît tout le passé, le présent et l'avenir, toi et moi, devant le Seigneur ce matin, à qui Dieu dit, « Je veux te raviver dans la révélation de pourquoi tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie et comment cette puissance peut faire toute la différence en toi. » Alors nous voilà à l'Église de Belleville de Longueuil, 2000 ans plus tard, le verset 14 qui se poursuit, encore aujourd'hui, tous d'un commun accord, persévérant dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Pourquoi la puissance du Saint-Esprit, la diapo 12, afin de continuer dans nos vies modernes ce que Jésus a commencé, afin de conquérir et de connaître des victoires insoupçonnées, qui sont sans lui inatteignables et impossibles. Et dans le prochain message, afin de changer profondément et de transformer l'ordinaire en extraordinaire. Alors, j'aimerais que vous disiez ça. Pourquoi la puissance du Saint-Esprit? Continuer, conquérir et changer. J'aimerais que vous le disiez avec moi. Pourquoi la puissance du Saint-Esprit? Continuer, conquérir et changer. Continuer, conquérir et changer. Pourquoi, les gars, avons-nous tellement besoin, pourquoi en tant que chrétien moderne, avons-nous tellement besoin de recapturer le pourquoi de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies? Pourquoi nous en avons tellement besoin? Parce qu'il y a tellement de croyants qui ne savent plus pourquoi. Tellement d'entre nous qui sont pris dans un marasme. On est pris dans un marasme et nous avons besoin du Saint-Esprit, lui seul, pour nous en sortir. Tellement d'entre nous qui sont marqués par la méfiance, pris dans un marasme, marqué par la méfiance, face au Saint-Esprit. Des gens qui ont vu des choses qu'ils considéraient excessives, des gens qui ont vu des choses qu'ils considéraient hors de la parole de Dieu, des choses qui littéralement leur ont fait peur. Il y a une méfiance qui les a marqués et maintenant ils se sont retirés et l'ennemi les a dans un endroit où ils sont en train, année après année, de manquer, de se faire voler ce que Dieu avait pour eux. Je déclare par la grâce de Dieu, nous avons vu les excès, nous avons vu les choses qui ne sont pas de lui, mais nous voulons rien de ce qui n'est pas dans cette parole, mais nous ne voulons rien manquer de ce qui est dans cette parole pour le Saint-Esprit. Il y a pourquoi avons-nous besoin du pourquoi d'une manière fraîche? Parce que nous sommes dans un marasme, nous avons été marqués par la méfiance. Parce que certains qui ont été certains ont vécu une vie chrétienne où on a limité le message, où on a parlé du Saint-Esprit, mais on en a donné seulement une partie, on en a donné seulement une parcelle. On a parlé de l'Esprit pour le salut, on a parlé de l'Esprit pour le commencement, mais il y a toute une dimension de Dieu. J'aimerais dire à des gens qui sont ici, que vous soyez de quelque iste que ce soit, et baptiste, et méthodiste, et pentecôtiste, et quel que soit le iste d'où vous promenez, ne pensez pas que vous avez fait le tour et que vous êtes arrivé à tout ce que vous aviez et que vous connaissez tout. Est-ce que quelqu'un ici pourrait dire, Seigneur, je veux que tu, après un an d'entre vous, 20 ans, 30 ans, 40 ans, dans la plénitude de l'Esprit et plus de génération en génération, et Dieu dit, aujourd'hui, en ce moment, je veux t'amener encore plus loin et t'amener à quelque chose de beau, de frais et de vrai dans le Saint-Esprit. Parce que certains avaient cette méfiance, ce marasme, parce que certains ont été affligés par un mysticisme sans vraie puissance. Ils ont vécu des moments de mysticisme que lorsque la réunion était terminée et que là tu fais face à la vraie vie et que tu retournes face à ton péché, à ta chair, à l'ennemi, à toutes sortes de choses autour de vous, il y avait un mysticisme sans puissance. Dieu veut vous amener à une place où la personne du Saint-Esprit est tellement réelle qu'elle fait pas seulement la différence entre 11h30 et 1h ou dans la réunion du dimanche soir, mais le Saint-Esprit fait la différence lundi et mardi et mercredi face à l'ennemi, face à la chair, face au diable lui-même, face à tes peurs, face à ton passé, la puissance de Dieu qui est réelle et qui est vraie. Il y en a qui, par méfiance, ils ont besoin de pourquoi. À cause d'un marasme, à cause de mysticisme, je dirais ceci, parce que plusieurs sont nostalgiques d'un monument passé par le Saint-Esprit. Les gens qui ont réduit leur marche avec Dieu à un monument du passé sont capables de vous raconter des histoires d'une époque qui sont maintenant rendues nostalgiques. Et Dieu n'a jamais eu l'intention que notre relation avec le Saint-Esprit soit un monument qu'on vient honorer au passé. Il veut que ça soit un moment, que ça soit un aujourd'hui. Il veut que ta relation avec le Saint-Esprit soit en mouvement et qu'aujourd'hui tu vives quelque chose de frais avec Dieu. Pas un monument, un moment, un mouvement. Et pas un monument, mais une nouvelle mesure de la personne du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit pourquoi la puissance du Saint-Esprit afin de continuer dans nos vies modernes ce que Jésus a commencé. Je t'ai écrit le verset 1, Théophile, je t'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit à ceux qu'il avait choisis. Une des premières choses qu'il a besoin de comprendre, c'est que l'appellation « les actes des apôtres » est une mauvaise appellation. Que lorsque nous disons les actes des apôtres, c'est une erreur de compréhension des plus profondes. Ce n'est pas les actes des apôtres, c'est les actes de Jésus à travers les apôtres. Luc avait écrit le premier évangile, il avait écrit l'évangile de Luc, il avait rapporté tout ce qu'il avait vu, le médecin, Luc, le scientifique, avait rapporté tout ce qu'il avait vu, et il a écrit à un homme qui s'appelle Théophile, et son nom veut dire amoureux de Dieu, et il écrit à Théophile tout ce que le Seigneur a fait, et ce qu'il fait maintenant, il va écrire maintenant les actes des apôtres, et il envoie cette lettre, et il dit à Théophile, Théophile, tu te souviens? Lorsque je t'ai dit, je t'ai expliqué ce que Jésus faisait, je t'ai expliqué comment il était merveilleux, je t'ai raconté les miracles qu'il faisait, je t'ai raconté le moment où il a calmé les tempêtes et il a guéri les malades et il a soulagé, il a délivré, je t'ai raconté l'autorité qu'il avait sur tout ce qui détruisait les êtres humains pour les amener à la liberté, je t'ai raconté, Théophile, comment il était amour et comment tout le monde venait à lui, les enfants, les gens de tous les âges, Théophile, je t'ai raconté tout ce que Jésus avait commencé à faire, et bien maintenant, Théophile, ce Jésus est allé au ciel. Il est ressuscité et par le Saint-Esprit, il continue à agir. Il avait seulement commencé à agir. Maintenant, il le fait à travers des hommes et des femmes ordinaires qui sont remplis de son esprit. Ce n'est pas les actes des apôtres qui, eux, ont passé. Ce sont les actes d'un Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement et qui, par le Saint-Esprit, nous rend capables de poursuivre ce qu'il a commencé. Des choses fascinantes des Actes des Apôtres, si vous lisez toutes les épîtres du Nouveau Testament, vous trouvez, c'est des lettres. Alors, il y avait toujours un commencement et une fin aux épîtres. Il y avait des salutations et à la fin, il y a des recommandations. Pareil comme si vous écriviez à votre famille et Paul écrit, et si tu salueras un tel, tu accueilleras l'autre, tu amèneras l'offrande à lui, tu prieras pour lui qui a mal au ventre, tu prieras pour lui. Et il y a toujours un commencement et une fin très claire aux épîtres. Lorsque tu arrives aux Actes des Apôtres, c'est très bizarre. Et la première fois même que tu lis les Actes, tu arrives au chapitre 28, tu es en train de lire, et tout à coup tu dis, écoute, voyons, il me manque une page. Comment? Il semble comme si les Actes n'ont pas de fin. Tu arrives, tout est en mouvement, tout est en action. Le chapitre 28 finit, les Actes des Apôtres finissent avec ces mots. Paul était pendant 2 ans dans une maison qu'il avait louée. Il recevait ceux qui venaient, il prêchait le royaume de Dieu, il enseignait ce qui concerne le salut en Jésus-Christ, en toute liberté et en obstacle. Ça, c'est le verset 31. Puis tu t'attaques au verset 32, il va dire, et maintenant, salut un tel, salut un tel, salut un tel. Il n'y a pas de fin aux Actes des Apôtres. La raison est simple. C'est parce que ce n'est pas les Actes des Apôtres qui, eux, sont finis. C'est les Actes de Jésus à travers les Apôtres et la raison pour laquelle il n'y a pas de fin aux Actes. Et il semble qu'il manque une page, c'est que les Actes continuent encore aujourd'hui et les pages continuent à être écrites par la main du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Quelqu'un devrait dire « Amen, nous sommes appelés à continuer les œuvres du Seigneur ». Je dirais de cette façon, de Antioche à vous et moi, à Longueuil aujourd'hui, et non seulement à Longueuil, mais partout dans la francophonie où les gens vont entendre ce message, de Antioche à vous et moi, nous sommes appelés à être des chrétiens. Comme Christ. Ce fut à Antioche que pour la première fois, se sont assemblés, une église a été formée, et ce fut pour la première fois à Antioche qu'on les appela chrétiens. Est-ce que je peux vous dire un mot, parce qu'il y a tellement de nouveaux qui viennent, est-ce que je peux dire un mot sur, pour bien comprendre c'est quoi un chrétien? Il faut être clair sur ce qui n'est pas un chrétien, sur ce qu'un chrétien n'est pas. Il y a des choses qu'un chrétien fait, mais qui ne nous définissent pas. Est-ce que c'est bien, bien important, pour, par exemple, de dire qu'un chrétien, c'est pas quelqu'un juste qui va à l'église. Il y a toutes sortes de gens qui vont à toutes sortes de lieux religieux, et souvent, d'aller à une église ne change rien à leur vie. Ce n'est pas, on va à l'église parce que nous aimons le Seigneur, il y a toute une raison spirituelle pour ça. Mais un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui va à l'église. Et contrairement à ce que beaucoup de gens dans votre entourage pensent, un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui va à l'église. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est un peu bizarroïde et coupé du monde, qui a l'air un peu bougalou, les yeux exorbités, qui fait des choses bizarres. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a toujours le doigt dans ta face, dont la seule tâche est de te rendre malheureux, puis de te gâcher le fun dans ta vie, puis de te dire, t'as pas le droit de... Est-ce que vous me suivez? Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est totalement coupé de la planète, qu'il se passe des choses hallucinantes dans le monde, puis lui, il n'a jamais l'air au courant, on dirait qu'il est sur une autre galaxie près de chez vous. Il est pas là, il est pas au courant de ce qui se passe. Un chrétien, ce n'est pas ça. Un chrétien... pas quelqu'un qui connaît des versets bibliques, parce qu'il y a plein de gens qui connaissent plein de versets et qui ne les vivent pas une seconde. Un chrétien, c'est pas des choses. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est comme Christ, qui poursuit et qui, par la puissance du Saint-Esprit, veut poursuivre, continuer les œuvres de Christ, continuer, conquérir et changer. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, afin de continuer les œuvres de Christ. C'est fait à Antioche qu'on les appela. À l'église, à Antioche, il y avait un peuple qui était là. On n'avait jamais utilisé l'expression des chrétiens, des comme Christ auparavant. Mais à Antioche, il y a un groupe de gens qui avaient été persécutés, qui venaient d'arrière-plan horrible, qui se rassemblent, puis ils commencent à chanter ensemble, à prier ensemble, ils commencent à débuter une église comme on a fait ici, à l'église Nouvelle-Vie, en 1993. Et eux se retrouvent ensemble, et alors qu'ils commencent à marcher dans cette grâce et dans cette puissance du Saint-Esprit de Dieu, les gens de la ville commencent à les regarder vivre et les gens disent, on voit en eux le pardon de Christ. Et il y a dans l'église, je n'ai pas le temps d'expliquer tout Antioche, mais il y avait dans l'église d'Antioche cette capacité totalement surnaturelle de s'aimer, de se pardonner, d'accepter d'être en interaction avec des gens même qui leur avaient fait un grand mal. Il y avait une capacité, une passion pour les gens qui souffraient. Il y avait une générosité dans l'église d'Antioche. Alors les gens de la ville voyaient, il y avait dans une ville où il y avait un racisme, où les gens, certaines nationalités étaient totalement séparées, dans l'église d'Antioche, pour les premières fois, l'Évangile va à toutes sortes de gens qui n'avaient jamais vu, jamais vu ensemble auparavant. Et les gens de la ville regardent à un peuple et ils disent, on voit en eux la passion de Jésus. On voit en eux le pardon de Jésus. On voit en eux la personnalité de Jésus. On voit en eux la persévérance et les principes de vie de Jésus. On va les appeler des comme Jésus, des comme Christ, parce qu'ils continuent les œuvres du Seigneur. Et par le Saint-Esprit, toi et moi, vous et moi, dans nos vies, dans ma famille, avec mes enfants, au travail, par ma générosité, par ma capacité de pardon, par mon courage, par ma foi, par mes principes de vie, je suis appelé à poursuivre les œuvres du Seigneur. Et par le Saint-Esprit, Dieu veut nous rendre capables de poursuivre. Je t'écris, cher amoureux de Dieu à l'Église Nouvelle Vie, pour te dire les choses que Jésus a commencé de faire, il continue à les faire à travers vous encore aujourd'hui. Il continue à les faire. Et Jésus a même dit, non seulement vous allez faire mes œuvres, mais vous allez en faire de plus grandes. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, il dit, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Voulez-vous dire à voix haute, de plus grandes? Parce que je m'en vais au Père. Le Seigneur, dans le même chapitre, dira, il est même avantageux que je vous quitte. Moi, je suis avec vous physiquement sur cette terre, dans mon incarnation. Il y a un impact sur vous, il y a un impact localement limité qui est là. Mais je vais retourner au Père, et je vais être ressuscité, et je vais vous envoyer le Paraclétos, le Saint-Esprit. Il va remplir la vie, le cœur, les pensées, et de chaque être humain, et de chaque croyant qui appelle à lui, et qui croit en lui, qui le recherche. Et à ce moment-là, non seulement est-ce que vous allez avoir l'impact que moi j'ai eu, mais l'impact que j'ai eu, vous allez le faire infiniment plus grand et la terre entière va être touchée. Là, ma puissance va amener un changement tel en toi que tout le monde autour de toi va être touché. Et cette prophétie-là, c'est totalement accomplie à travers ces 12 apôtres et par la suite à travers l'Église, des actes des apôtres. L'Évangile maintenant va dans le monde entier. L'Évangile a touché des centaines de millions et au fil des siècles et des millénaires, des milliards de personnes dont la vie ont été transformées. Et Jésus dit, je me cherche un peuple, une personne qui va être prête à être remplie de mon esprit afin que mes œuvres se continuent. De la même façon dont Jésus marchait, et qu'il rencontrait des personnes troublées, brisées, cassées, et il touchait leur vie. De la même façon, aujourd'hui, à travers toi, je veux te remplir de mon esprit, afin que mes œuvres se continuent à travers toi. La semaine dernière, j'étais au Colorado, et prêchant toute la fin de semaine, et enseignant, et conférence, et pasteur-leader, et aussi à l'église, et formation de leadership. Et j'ai eu le bonheur, le dimanche après-midi, dimanche dernier, de me retrouver assis à une table avec la famille de Nicky Cruz. Sa fille était là, ses enfants, ses petits-enfants qui étaient là. Et pour tous les nouveaux chrétiens qui sont ici, vous ne connaissez pas Nicky Cruz. Nicky Cruz était un homme qui, dans les années 55, soit à 60, était dans des gangs à New York. Et un jour, lui, sa gang, c'était comme des jeunes loups, comme des animaux pratiquement. On va le regarder dans un instant. Et il était tellement bestial dans ses comportements qu'un jour, alors qu'il volait des gens dans la rue de New York, ils ont vu une personne handicapée, puis ils ont cherché à la voler. Et alors qu'ils l'ont volée, ils ont littéralement poignardé. Ils avaient 16-17 ans. Ils ont poignardé une personne handicapée. Et alors qu'ils ont poignardé une personne handicapée, ça a fait les nouvelles au niveau national, puis se sont retrouvés sur la couverture du magazine Life, du Life magazine. Il y avait un pasteur qui s'appelle David Wilkerson, qui est un ami ici maintenant, un père dans la foi pour nous à l'Église de Nouvelle Vie, que j'ai beaucoup de rapports avec lui, qui est un père pour nous dans la foi. Et lui était pasteur dans une église de campagne en Pennsylvanie, avait jamais mis les pieds à New York de sa vie. Et alors qu'il est en train de prier, le Seigneur lui dit, tu vas aller à New York, tu vas te rendre là-bas, tu vas chercher à rejoindre ces jeunes hommes-là, parce que je veux que tu les trouve, je veux que tu lui parles de mon amour parce que je veux. Savez-vous ce qu'il disait en fait? Le Seigneur lui disait, je veux que tu continues mes œuvres. David Wilkerson sera à New York, tout un concours de circonstances. Il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle La Croix et le Poignard, qui détaille tout ce qui a pris place. Maintenant, un des best-sellers. Et une des choses qui est arrivée, il a réussi en allant à la salle de cours et par la suite, il a réussi à rencontrer Nicky Cruz qui était en libération, en attente de sentence et tout ça. Et une des premières rencontres qu'il a eu avec lui, il s'est approché de lui puis il lui a dit, Nicky, je veux te parler de l'amour de Dieu. Et Nicky Cruz l'a pris à la gorge, a pris un couteau, il a mis ça à la gorge, puis il a dit, dis-moi ça une autre fois, puis je te coupe en 1000 morceaux. Tu comprends-tu? Je te sens. Je te coupe en 1000 morceaux ici à terre. Et David Wilkerson, avec un calme désarmant, a répondu, Nicky, si tu me coupes en 1000 morceaux, les 1000 morceaux vont dire Jésus t'aime. Nicky Cruz t'a fait dire bien des affaires dans sa vie, mais pas ça, ça c'est sûr. Je vous parle de continuer les œuvres du Seigneur. Je vous parle du Saint-Esprit qui nous donne des ordres encore aujourd'hui. Et tu peux toucher quelqu'un autour de toi. Tu peux toucher quelqu'un dans ta famille, dans ton entourage. Nous pouvons et nous devons accepter de dire, Seigneur, remplis-moi à nouveau. Je veux continuer tes œuvres. Et Nicky Cruz est venu dans une réunion publique comme celle-ci. Il a donné sa vie au Seigneur. Et alors qu'il a été touché, il savait qu'il devait changer de vie, sortir du milieu dans lequel il était. Et David Wilkerson a fondé un premier centre qui s'appelle Teen Challenge à Brooklyn, où Nicky et d'autres sont allés. Et vous savez-vous qu'en 2008, puis là, le clip va apparaître, c'était le 50e anniversaire célébrant les centres d'Effie Jeunesse. Il y en a dans 35 pays du monde. Et un des conférenciers invités était Nicky Cruz, qui est rendu maintenant un grand-papa, un homme de Dieu. Il y avait Israël Narvaez qui était là, qui est un pasteur. Et il y avait un autre qui était là, Guillaume, qui était lui aussi est un pasteur. Il y avait la salle qui était remplie d'anciens toxicomanes, d'anciens bandits, d'anciens membres de gang qui sont transformés, qui sont touchés, qui sont des citoyens modèles maintenant. Et moi, je me suis retrouvé, si on passe du clip, à la prochaine photo, je me suis retrouvé dimanche dernier assis avec la famille de Nicky Cruz, ça, ses grands-papa, ses filles qui sont là, ses fils, ses petits-filles. Et il y avait quelque chose, j'étais assis dans un restaurant et j'étais avec ses enfants et ses petits-enfants qui sont de l'âge des miens. Sa fille a des enfants du même âge que les miens, des ados. Et j'étais assis là avec ses beaux ados et il y avait une joie, une sourire, il y a toute une famille extraordinaire. Et j'étais dans un restaurant et ça me prenait tout mon petit change juste pour me retenir. J'étais tellement ému à la pensée de si Dieu, si Jésus n'avait pas touché sa vie, quelle serait la photo de famille de cet homme-là? Qu'est-ce qui aurait été sa photo, lui qui était comme un animal à l'âge de 16 ans? Combien de mal et de douleur aurait-il causé? Qu'est-ce qui aurait été la fin de son histoire? Mais nous ne sommes pas, j'aimerais vous dire ceci, on n'est pas ici pour jouer à l'Église, on n'est pas ici pour jouer à la religion. Nous avons un Jésus qui est vivant et son Saint-Esprit est encore capable de changer la photo de qui que ce soit et de donner une vie nouvelle. Quelqu'un devrait dire oui. Afin de continuer dans nos vies modernes, ce que Jésus a commencé, nous disons, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Pourquoi la puissance du Saint-Esprit? Afin de conquérir et de connaître des victoires insoupçonnées qui sont sans lui inatteignables et impossibles. Pourquoi la puissance du Saint-Esprit? Pour continuer, pour conquérir et pour changer. Pour continuer, pour conquérir et pour changer. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Moi, je vous ai annoncé, dit-il, Jean baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. À ce moment-là, les disciples, Jésus leur dit, n'essayez pas. Vous ne pouvez pas conquérir sans la puissance de mon esprit. Demeurez là. Il y a toute une terre à gagner, il y a tout un monde, il y a une mission. Il avait fini l'évangile de Matthieu en disant, allez de par le monde. Faire des disciples, c'était leur mission, c'était le but de tout ce que le plan rédempteur. Mais il leur dit, tu ne peux pas le faire autrement. Tu ne peux pas conquérir ce qui est contre toi, à moins que tu le fasses par la puissance du Saint-Esprit. Et il leur dit, restez là. Pourtant, les disciples qui étaient là avaient entendu l'enseignement du Seigneur. Ils connaissaient le message. Ils avaient été baptisés d'eau. Ils avaient entendu le message de salut. Ils avaient entendu le Seigneur qui les avait appelés à le suivre. Ils avaient marché avec lui. Jésus avait soufflé sur eux. Il leur avait dit, recevez le Saint-Esprit en termes théologiques. Ils étaient le temple du Saint-Esprit. Mais il y avait besoin de cette expérience. Il avait besoin d'être rempli de l'Esprit. Le Saint-Esprit qui est reçu à la Pentecôte. Dans Acte 2, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit qui doit être renouvelé perpétuellement. Être rempli de l'Esprit n'est pas une date, un moment, un événement dans le passé. C'est qu'il y a une promesse personnalisée que Dieu veut renouveler dans nos vies à chaque jour. Dans Acte 2, ça dit qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et dans Acte 4, entre les deux chapitres, comme dans nos vies, il y a des persécutions, il y a des pressions, il y a des pertes, il y a des peines, il y a des peurs. Et alors, ils viennent ensemble, ils élèvent la voix, tous ensemble, et quand ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils sont à nouveau remplis de l'Esprit. Et pour tous ceux qui veulent réduire, être remplis de l'Esprit à un événement d'une fois, comprenez que Dieu veut te donner plus de lui. Dieu veut te donner un renouvellement, une force nouvelle, afin que tu puisses non seulement continuer ses œuvres, mais que tu puisses conquérir. Que tu puisses conquérir ce qui vient contre toi. Connaître la puissance du Saint-Esprit au-delà de la repentance. Au-delà de simplement se repentir. Dans Acte 19, il y a plusieurs vignettes comme ça dans les Actes des Apôtres. Mais dans Acte 19, il y a des chrétiens qui sont là, qui s'étaient repentis. Nous lisons la diapo 24, que les ayant rencontrés, les disciples, quelques disciples, l'apôtre Paul leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? » Ils ont répondu, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Puis encore des millions de chrétiens aujourd'hui qui ont connu une repentance, qui suivent le Seigneur, mais qui ont besoin d'une révélation que le Saint-Esprit seul peut leur donner cette puissance, cette force, cette vie. Alors, il leur demande, « Mais de quel baptême, donc? Avez-vous donc été baptisés? » Ils ont dit, « Du baptême de Jean. » Ils parlent de Jean-Baptiste, qui avait été baptisé à la repentance, la foi en Jésus-Christ, la repentance de leurs mauvaises actions. Alors, l'apôtre Paul, sur ses paroles, la diapo 23, les baptise au nom du Seigneur Jésus. À ce moment-là, ils sont nés de l'Esprit, scellés de l'Esprit, l'habitation de l'Esprit, le temple de l'Esprit. Mais lorsque Paul leur imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue, ils prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes, un petit groupe d'hommes et qui étaient remplis de l'Esprit comme au jour de la Pentecôte. Et aujourd'hui, en 2009, c'est 500 à 600 millions de personnes sur la terre qui sont des chrétiens pentecôtisants, qui croient à la plénitude, que le Saint-Esprit n'a pas changé et qu'il est encore capable de remplir nos vies aujourd'hui. Cette dimension de la puissance du Saint-Esprit pour chaque croyant qui ouvre l'univers des dons, qui ouvre l'univers des dons spirituels, qui ouvre l'univers de toute la richesse du fruit de l'Esprit, des dons de l'Esprit. Je dirais de cette façon, que la grâce et la puissance est donnée, mais Dieu veut qu'elle soit augmentée et qu'elle soit multipliée. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ça, c'est la grâce donnée dans Romains 16. La grâce et la puissance soient accrues. Jean nous dit, il donne de plus en plus de grâce. De plus en plus une puissance supérieure. Et la grâce, c'est la puissance qui est multipliée. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Il y a quatre mots pour la puissance de Dieu dans la parole de Dieu. On va le regarder dans le prochain message. Je vais en regarder seulement un en arrivant à la fin du message pour ce matin. Vous avez dans la parole de Dieu le mot « dunamis » dans Actes 1-8 qu'on a lu. Vous recevrez une puissance, un « dunamis », le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins et à Jérusalem, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le mot « dunamis » veut dire une force, une capacité surnaturelle, une énergie, une puissance, une habilité proportionnelle surnaturelle. Parce que le mot « dunamis », on en a tiré le mot « dynamite », c'est vrai, c'est la même racine de mot. J'ai entendu mille fois dans ma vie des prédicateurs dire « Oh, le Saint-Esprit, c'est une dynamite, boum, tu vas exploser, c'est une dynamite, c'est le Saint-Esprit. » C'est vrai tout ça, mais bien au-delà du « boum » du dimanche, le mot veut dire « proportionnel ». Le mot veut dire une charge, une énergie, une capacité, une force qui n'est pas de toi, qui est surnaturelle et qui va être proportionnelle à quoi que ce soit qui vient contre toi, qui est plus grand que tout ce qui vient contre toi. Vous avez cette expression-là, ce mot-là, dynamis, est utilisé dans cette expression-là, cette connotation-là de mesure, de proportion. Dans l'évangile de Matthieu 25, il dit, et dans la parabole des talents, il donna à chacun selon son dynamis, selon sa capacité, selon sa puissance, proportionnellement. Et dans 2 Corinthiens, il parle de gens qui ont donné différentes choses. Il dit, ils ont donné proportionnellement, chacun selon ses dynamis, selon ses capacités. Savez-vous ce que ça dit? Si vous saisissez ceci, ça change tout. C'est que Dieu dit, c'est pour ça que le Saint-Esprit est descendu comme des langues de feu sur chacun d'entre vous. Parce que pour chaque personne dans ce lieu, il y a des combats différents, des tentations différentes, des passés différents, des présents, des épreuves, des peines, des douleurs, des chaînes, des captivités, des choses secrètes qui sont différentes. Et le Saint-Esprit n'est pas venu comme une boule de feu générale. Il est venu se poser sur chaque personne. Et il désire aujourd'hui te donner à toi, et Dieu dit, si tu t'abandonnes à moi, si tu me recherches, si tu vas dans cette dimension où tu recherches mon Saint-Esprit, à chaque jour, tu vas recevoir une puissance proportionnelle à ce que tu vis. Aucune arme formée contre toi ne va te vaincre. Quelle que soit l'ampleur de ce qui t'arrive à toi, mon Saint-Esprit va être plus grand, va être proportionnel, va être dunamis pour faire de toi un témoin qui ne veut pas juste dire quelqu'un qui parle. Le mot témoin ici, c'est pas un parleur, un proclamateur, c'est le mot martus qui veut dire quelqu'un qui se tient debout. On en tire le mot martyr qui veut dire quelqu'un qui se tient, quelqu'un qui résiste, quelqu'un qui est un conquérant, qui a vécu que rien n'a renversé. C'est littéralement Dieu qui dit, vous recevrez une puissance proportionnelle, la diapo 26, une divine capacité de conquête et vous serez capable de vous tenir debout à Jérusalem, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors que les musiciens s'approchent, même ça, je vais l'expliquer plus dans le prochain message. Mais Jérusalem, Samarie, extrémité de la terre, a été souvent juste présenté comme un plan géographique graduel pour l'évangélisation. Tu parles de Dieu dans ta ville, puis après ça le Québec, puis après ça les nations. Et c'est pas mal, mais c'est infiniment plus profond que ça. Il dit, je vais vous donner une puissance, elle va être proportionnelle à tout ce qui est venu contre toi, à tout ce qui vient contre toi, et je vais te rendre capable d'être victorieux, d'être un martyr, d'être quelqu'un qui est debout solide, alors qu'il était effondré auparavant, et tu vas être debout à Jérusalem, le lieu de la défaite, le lieu de la douleur, le lieu des doutes et du découragement. Lorsque Jésus a dit Jérusalem, il faut entendre tous les disciples dire, oh non, n'importe où, mais pas là. Ça, c'est la place où j'ai renié. Ça, c'est la place où on a peur. Ça, c'est la place où j'ai été faible. Ça, c'est la place que je voudrais tellement... Personne ne sache comment j'ai été faible ici. Mais le Seigneur dit, j'ai pas peur de tes échecs. J'ai pas peur de tes défaites. Je ne veux pas que tu fuis tes défaites. Je veux que tu en deviennes un conquérant par la puissance du Saint-Esprit. Tu as donné une puissance à Jérusalem, le lieu des défaites, de la douleur, du doute. Je vais te donner une puissance en Samarie, le lieu de la découverte, où tu vas voir, c'est en Samarie qu'ils ont été le souffle coupé. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur la maison de Corneille, des gens qu'ils n'avaient jamais imaginé, l'apôtre Pierre et tous les autres ont été, je ne veux pas être vulgaire, mais l'apôtre Pierre a été littéralement jeté sur son postérieur. Lorsqu'il a vu quoi, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit descend sur des gens qu'on penserait jamais qu'ils étaient supposés être touchés, exister, mis. Ils ont été, le souffle coupé. Dieu dit, je vais te donner une puissance qui va t'émerveiller, qui va te couper le souffle. Tu n'as pas d'idée ce que je peux faire en toi et à travers toi. Dans ton Samarie à toi, le lieu de la découverte. Et par la foi, je déclare, ces mois de fin d'année, des mois où tu vas aller chercher une victoire par le Saint-Esprit dans ton Jérusalem personnel et tu vas te lever debout pour découvrir tout ce que Dieu a pour toi. Dans le lieu de la délivrance et le lieu de la destinée. Pendant que les musiciens prennent place. J'étais dans le voyage au Colorado. J'ai rencontré deux madames. J'étais avec Chantal et puis on a rencontré des femmes qui étaient là. Il y avait plein de leaders qui étaient là. Puis il y avait deux dames qui étaient là qui parlent ensemble, sont venues me voir. Merci, pasteur, tout ça. Puis j'ai juste appris leur témoignage. Comme si vous traversez l'église ici, vous rencontrez plein de gens qui ont chacun une histoire de vie absolument extraordinaire, comment ce que Dieu a fait dans leur vie. Il y avait une dame qui était là qui dirigeait un groupe pour des femmes dépressives et le pasteur a dit, c'est une femme qui a une onction de joie extraordinaire, de force. Elle amène les femmes qui semblaient sans espoir et Dieu lui donne une onction. C'est une femme de prière et elle vient. Il y a tellement de femmes en l'église qui retrouvent la vie à cause de elle. Et lorsqu'on, quelques minutes, parlait avec elle, le pasteur me racontait par la suite que c'est une femme qui a été pendant à peu près 15 ans, de 20 ans ou de 18 ans, 20 ans jusqu'à 35 ans, chroniquement dépressive elle-même. Alors qu'elle est entrée dans les choses de Dieu, qu'elle est entrée dans la maison de Dieu, elle a reçu le Seigneur et puis restaurée elle-même et remplie de l'Esprit, celle qui était captive, celle qui était prise à Jérusalem de défaite et de douleur et de peine et de découragement est devenue celle maintenant, Martus, qui se tient debout et qui amène la délivrance à d'autres. Et lorsque j'ai parlé avec elle, elle m'a dit, oh, priez pour moi, elle dit, j'ai trois fils en Irak en ce moment. J'ai dit, ça doit être dur pour une mère, c'est quelque chose. Elle dit, ouais, tous les soirs, on regarde les informations, on ne sait jamais, et il voit. Elle dit, je suis allé à tellement de funérailles, des fils de mes amis qui reviennent dans les cercueils. Et puis, elle a eu juste comme un moment, elle m'a dit, vous savez, elle dit, il y a une époque dans ma vie où je serais écrasé, je serais morte juste de penser à tout ça. Mais avec une grande simplicité, elle a dit ceci, « But Jesus is taking care of me, and the fruit of the Spirit is peace. » Elle a dit, « Jésus prend soin de moi, parce que le fruit de l'esprit, c'est la paix. » Il y avait son ami qui était à côté d'elle et puis ils s'activaient ensemble. Lorsque j'ai appris leur témoignage, j'ai su qu'elle dirige un groupe, pas un groupe, mais une maison pour femmes, anciennement toxicomanes, et Dieu se sert d'elle magnifiquement. Et elle sait de quoi elle parle. Elle n'a pas été chercher son expertise dans un livre seulement. Cette femme-là avait été une héroïnomane elle-même. Et elle a vécu à un moment donné une période où ce que un événement l'a amenée même en psychiatrie parce qu'elle était une héroïnomane. C'est elle qui a initié son jeune frère à l'héroïne. Puis alors qu'un jour, elle shootait son jeune frère, après quelques mois où ils were using together, les deux ramassaient l'argent qu'ils pouvaient et puis se gelaient dans des piqueries. Et un jour, elle était en train de shooter son jeune frère et ce qu'on lui avait donné était comme un poison. Puis elle a shooté son frère qui est mort devant elle. Et lorsque c'est arrivé, elle a glissé dans la folie. Condamnation, la folie, la honte. Et alors qu'elle était en psychiatrie, dans une prison, mais en moitié en psychiatrie, il y a un aumônier, une aumônière, une pasteur femme qui a commencé à aller la visiter. Vous comprenez comment dans la pensée québécoise, qui ne connaît pas Dieu, la puissance de l'esprit, comment est-ce que c'est ridicule? Une femme, arrêtez le film-là, elle est en psychiatrie, elle a tué son propre frère en le shootant, elle est une héroïnomane de vie elle-même, puis là, tu vas avoir quelqu'un qui va aller parler de religion. Franchement! Ça a besoin d'être ça.
On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui va aller lui parler de religion. On est en train de parler de quelqu'un qui va lui présenter un Jésus qui est vivant et un esprit qui agit et qui est vrai et qui est capable de te donner une victoire. Quel que soit ton Jérusalem de défaite et de chaîne, il est capable de te faire découvrir la puissance de Dieu. Quelqu'un devrait applaudir plus fort que ça, la puissance de Dieu. Je suis revenu dans l'avion et je pensais à ces deux dames et je priais pour vous. Je disais, Seigneur, j'ai dû fortifier dans ma foi. Je disais, Seigneur, il n'y a pas de limite à ce que tu peux faire dans quelqu'un qui va s'abandonner à toi. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit afin de continuer ses œuvres. Mais nous avons besoin de son Saint-Esprit, Seigneur, de ton Esprit, de la puissance de ton Esprit, au-delà de notre salut, de la puissance de ton Esprit, afin de pouvoir conquérir ensemble. Ne manquez pas le prochain message, je crois, qu'il va y avoir vraiment. Ne manquez pas la réunion de ce soir, parce que ce soir, toute l'équipe pastorale va être ici, comme il y a 2000 ans, pour vous imposer les mains et croire qu'alors que vous allez venir avec des cœurs assoiffés, la puissance du Saint-Esprit est là pour toucher ta vie. La puissance du Saint-Esprit est là pour briser des chaînes. Je déclare que ce soir, dans ce lieu, les œuvres de Jésus vont se continuer et des êtres humains vont conquérir. Je déclare cette soirée une soirée de défaite pour tout ce qui est ténèbres et mort. Et quel que soit d'où tu viens, tu es capable de changer la photo de ta vie par la puissance de ton Saint-Esprit. Alors, j'aimerais vous demander ceci, en ce dernier moment, j'aimerais vous inviter à vous lever avec moi en sa présence. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Pendant que les musiciens commencent à juste jouer doucement la mélodie qui dit, Père, je viens devant toi humblement. Hallelujah. Remplis-moi, Seigneur. Si vous êtes ici ce matin et vous dites, ce message est pour moi. Je veux continuer les œuvres du Seigneur dans ma vie. Je veux avoir le cœur du Seigneur et je veux avoir sa compassion. Je veux avoir sa pureté et je veux avoir sa personnalité. Je veux avoir sa passion. Pas d'une manière mystique et bizarre, mais d'une manière vraie et puissante. Je veux continuer les œuvres de Jésus dans ma vie. Et je veux conquérir ce qui m'a conquis jusqu'à aujourd'hui. Je veux recevoir une puissance, un dynamisme proportionnel pour être libéré, pour être fortifié. Et pendant quelques instants ce matin, en préparation pour ce soir, je prie vraiment que la majorité d'entre vous preniez le temps qu'il faut. Il va y avoir les garderies, les pouponnières pour vos enfants et tout ça. Allez manger, mais revenez cet après-midi parce qu'il y a un rendez-vous divin pour vous dans ce lieu. Mais dès ce matin et pour la fin de l'année, des hommes et des femmes qui diront ici ce matin, Seigneur, j'ai besoin de plus de ton Saint-Esprit. Si vous êtes ici ce matin, les musiciens vont juste jouer sous l'onction pendant quelques instants. J'aimerais que nos bouches s'ouvrent et qu'on commence à dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je viens de toi, devant toi, Seigneur. Hallelujah.
Mon âme soit de toi. Mon Dieu, mon Père, mon roi. Mon être entier soupire après toi.
Garde dans ton cœur,
garde dans ton cœur de père. La source qui désaltère rafraîchit mon âme de toi.
Chantons-le, prions-le ensemble. Mon âme a soif.
Mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Car dans ton cœur de Père, la source qui désaltère rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon cœur. Viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier.
Devant nos cœurs, venez boire.
Oh, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier.
Viens inonder mon cœur, mon âme. Levez vos cœurs et buvez aux eaux de sa présence.
aurait inondé mon être entier.
Et adore le Seigneur avec les instruments. Levez vos cœurs vers lui. Préparez-vous pour cet après-midi. Préparez-vous. Et dites, Seigneur, je veux revenir à la recherche de ton esprit. Je veux revenir à une vie qui dépend de toi. J'ai besoin d'une victoire dans mon Jérusalem. J'ai besoin, Seigneur. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin d'être rempli à nouveau. J'ai été rempli. Mais je dois lever ma voix avec mes frères et mes sœurs. Ils élevèrent la voix tous ensemble. Et j'ai besoin, Seigneur, d'être rempli à nouveau, afin que tu me renouvelles et que tu me réveilles et que tu me ressuscites. Alléluia! Oh, yeah. Prenez quelques moments maintenant. Prenez quelques moments pour rechercher le Seigneur. Alléluia! Alléluia! J'ai soif de toi, mon Dieu. Oh, j'ai soif du Dieu vivant, j'ai soif de ton esprit, j'ai besoin de toi, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Alléluia, j'ai besoin de toi, mon Dieu, j'ai besoin de toi, hey, j'ai besoin de toi, Seigneur. Remplis-moi. Et heureux celui qui a faim et soif, ils seront rassasiés, dit le Seigneur. Oh, mon âme a soif de toi. Dernière fois ensemble. Mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.